Warning.
Attention, dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 quarts secondes.
Nous sommes le 13 août 2017. Bonjour et bienvenue au 50e épisode de 24 quarts secondes.
50!
Le podcast des mordus de cinéma de science-fiction. Je suis Nicolas Petzilas et à mes côtés, Marie-Louise Garrier-Py.
Salut!
Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com, 24quarks.com, aussi sur iTunes, sur RZO Web, sur Balado Québec, sur Pod Québec. On est partout. Ou presque.
Partout.
Je sais pas, est-ce qu'on est sur Google Play oui ou non, je sais plus, je sais que j'avais checké ça mais c'était pas, enfin il faudrait vérifier quoi.
Je sais pas, mais... je te laisse ton expertise toi. C'est toi le plus geek de ces choses-là.
Si vous avez envie de réagir à une de nos discussions, commenter, nous faire des suggestions de films, pourquoi pas. Vous pouvez nous contacter par notre page Facebook ou par courriel à 24quarks@gmail.com. Aujourd'hui, pour la 50e, bizarrement, on va s'attaquer à un film bizarre. On aurait pu faire un grand coup avec un chef-d'œuvre du cinéma.
Non,
mais on s'est dit que non, on allait faire dans le film bizarre,
c'est pour
underground.
Couper, c'est pour pas couper notre série de...
Ouais.
On est parti dans une série de films non anglophones de science-fiction.
C'est ça.
Et c'est très dur, en plus, à trouver, parce qu'on a vraiment fait de la recherche, toi puis moi, puis c'est pas comme...
Ouais, c'est pas un truc évident, ouais. C'est,
non, ça m'a choqué. Ouais. Ça m'a vraiment choqué.
Il n'y a pas plus de films que ça?
Ouais, vraiment, ça m'a vraiment choqué, parce que je comprends pas pourquoi c'est juste le monde anglophone qui produit, on me dirait,
anglophone
les
et francophone, on va dire.
Mais même francophone.
Anglophone, évidemment.
Mais même francophone, il n'y en a pas beaucoup.
Non, énormément.
On hésitait entre trois. Hein?
C'est dans une galaxie près de chez vous.
Ça, c'est québécois.
Ouais, je sais.
C'est vrai, je l'avais oublié en quatre, OK. Mais on reste dans notre lancée de films. Puis du coup, pour notre 50e podcast...
Ouais, 50e podcast, on se retrouve avec un film culte du cinéma underground japonais. Ça s'appelle Tetsuo. Il y a une façon de le prononcer? Tetsuo. Le titre anglais, c'était Tetsuo the Iron Man, à ne pas confondre avec le héros de Marvel du même nom.
C'est un légèrement film... différent.
Légèrement différent,
ouais. On peut trouver des ressemblances si on passe beaucoup de temps. Enfin, il y a des êtres humains couverts de métal.
Il y a un lien quelque part.
Je connais pas l'histoire d'origine de Iron Man, donc peut-être il y a quelque chose du genre, mais... Non.
Donc, c'est un film de Shinya Tsukamoto et qui est sorti en 1989. Mmh. Voilà, c'est de ça qu'on va parler dans un petit moment.
Mais avant, quand même, pour souligner...
Oui, souligner le fait qu'on est notre 5e épisode, à défaut d'avoir fait...
50e épisode.
J'ai dit quoi?
5e épisode.
J'ai dit 5e? Non, 50e,
quand même, 50, c'est le fun, on n'a pas lâché, ouais. On a plein de petits podcasts que vous pouvez aller réécouter.
On n'est pas fréquent de ce temps-ci, mais on continue, on ne lâche pas. Mm. On n'a pas l'intention de lâcher. À défaut de faire un best-of avec les meilleurs moments de tel ou tel épisode, ce qui est quand même... du travail, là. On s'est dit qu'on allait faire une petite liste des 10 meilleurs podcasts, enfin, ou en tout cas à notre avis, là, ceux qu'on a...
Sur les 50, les 10.
Ouais, sur les 50, les disques qui, selon nous, sont les plus le fun là, donc, de réécouter.
Donc, les nouveaux auditeurs, dont on va parler tantôt potentiellement, les nouveaux auditeurs pourront découvrir, selon nous, ce qui vaut la peine d'écouter. Donc, peut-être pas ce qui va suivre, peut-être retourner en arrière.
Hein? Si le film qu'on va faire aujourd'hui, ça vous intéresse pas du tout parce que c'est possible.
C'est possible.
Eh bien, il y a d'autres trucs plus fun, plus, un petit peu plus mainstream, on va dire, ou un petit peu plus.
Ouais, exact. Donc, moins perturbant.
Ouais. Alors, dans la petite liste de 10 épisodes, si on repart depuis le début, il y avait l'épisode numéro 7 dans lequel on avait parlé de The Thing, le film original de John Carpenter.
Un film que tous les trois nous aimons beaucoup, puis qu'il y avait tellement de choses à dire, puis c'était dans nos débuts, mais on était...
Donc, tous les trois, parce qu'il y avait Olivier qui était encore avec nous.
Parce qu'on avait aussi...
C'est possible qu'on avait un invité, je n'ai plus le souvenir. Là.
Oui, mais à l'époque aussi, on avait aussi David et Montferrand.
Oui, qui était encore avec nous.
Qui était encore avec nous, je crois, pour The Thing. C'était peut-être à ce moment-là qu'il avait arrêté, mais je sais que... Je crois qu'il était encore là quand on avait fait The Thing.
Ouais. Donc, en tout cas, c'était un film
réalisateur de Kino qui était avec nous au début. Puis, ça avait été très le fun.
Ouais, c'est un film qu'on avait tous adoré. Mm. Et puis, un film qui a pas vraiment pris une ride, qui se laisse revoir toujours aussi bon, toujours aussi efficace.
Comme le film qu'on va parler tantôt n'est pas tout à fait. Tu voulais un contre-exemple? Selon moi.
Ensuite, le deuxième, c'était l'épisode numéro 10. C'était un épisode spécial qu'on avait fait. C'était une piste commentaire pour 2001, l'Odyssée de l'espace.
Ah oui, c'était magnifique.
Donc là, ça, c'est intéressant. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, c'est intéressant à écouter le film en écoutant notre commentaire avec. Donc, le film passe en temps réel, puis on commente les images et tout ça en même temps que le film. Ça a été super le fun à faire. Il faut qu'on en refasse un prochainement, d'ailleurs.
Il faut se le faire.
Même. On s'en refasse un autre. Puis, grand film.
Partons tes tuyaux.
Enfin, grand film, évidemment, puis qui fascine toujours. Après, à chaque visionnement, c'est une redécouverte. Puis, c'est à chaque fois des choses à dire. Tu lis le film d'une autre manière à chaque fois. Enfin, c'est un film qui vieillit pas non plus.
C'était le fun d'en parler entre nous en regardant les images.
Ouais,
on amenait des commentaires.
Ouais, puis de faire une conversation comme ça pendant un film, je pense que c'était un truc que j'avais jamais fait ou très peu. Et c'était vraiment super intéressant d'avoir justement des opinions différentes. Puis,
moi, quand je suis au cinéma, j'essaie de faire des conversations comme ça. On me fait toujours chut comme ça. C'est comme. Non.
C'est bizarre.
C'est bizarre.
Hein? Ouais, c'est curieux quand même.
Ouais, ouais. Mais là, ça marchait.
Ouais. Ensuite, il y avait l'épisode numéro 23, Her.
Mm.
Le film de Spike Jonze.
Magnifique
film qu'on était allé voir. On avait enregistré le podcast droit derrière la projection. On était allé le voir tous ensemble.
On était allé au Guzzo et on avait enregistré la projection dans l'espèce de...
Dans le restaurant italien qui
était à côté.
Ouais,
une espèce de gros restaurant italien. Tu sais, vous savez, ces restaurants typiques là, d'un peu des banlieues.
Ouais,
là,
tout... Puis on était avec Olivier et Philippe Toupin, je pense.
Il y avait Olivier et Philippe Toupin. Puis je pense que Guillaume était là, un ami d'Olivier, mais je ne suis pas sûre. Je sais que Guillaume est déjà venu avec nous à un des podcasts que Philippe était là. Je ne sais pas si c'était lui.
Je pense. Mais,
c'était Oblivion. Avait... Okay, ouais. Donc il y avait Philippe, il y avait Olivier, il y avait toi puis moi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on avait une belle conversation après le film. C'était vraiment. C'était chouette. C'est aussi différent là, d'aller voir un film puis de faire d'enregistrer le podcast directement après. On ne l'a pas fait souvent, ça.
On l'a fait quelques fois, mais.
On ne fait pas vraiment de sortie de film. C'est pas l'objectif du podcast, mais de temps en temps, c'est...
On a la misère à faire le podcast, on a la misère à aller au cinéma, ça va ensemble.
Après ça, il y avait l'épisode 26, Dread.
Oui,
Judge Dredd avec, je répète encore une fois, pas Judge Dredd avec Stallone, mais bien Dread, qui date de... C'est un film plus récent, j'ai pas l'année sous les yeux, là. Mais qui était un film très très bon, un de ces films surprenants, qui n'avait pas fait un gros score au box-office.
Non, mais qui nous avait plu. Ça avait un petit peu cette petite facture-là des films cyberpunk des années 80, justement, qui avait comme une sorte de noirceur, de dureté, mais qui faisait beaucoup penser à la bande dessinée. Hein?
Ouais.
Ça, qui avait, ben, qui, c'est une bande dessinée à la base, mais un comic, j'imagine, anglophone.
C'est ça.
Mais le film a cette texture BD, mais sans que ça soit trop appuyé, juste parfait.
C'était la bonne balance.
Un film bien équilibré.
Super efficace, super film d'action. Enfin, vraiment bien, vraiment très très bon, puis un bon podcast. Après, bien sûr, il y avait eu l'épisode 29, c'était Alien. Là, on avait toute la série, en fait. On a fait trois podcasts. Il y avait Alien, le premier, ensuite Aliens, puis après un combiné avec Alien 3 et 4.
Ouais. Puis comme Alien est probablement un film culte de moi, Olivier et Nick aussi, c'était qu'être intéressant parce qu'on n'arrêtait pas.
Ça fait que ça, c'est toujours intéressant. Un film aussi qui est... tu peux repasser à travers ce film autant de fois que tu veux. Enfin, à mon avis, ça n'a pas pris une ride ou très peu. Là, il y a des petits éléments peut-être qui trahit l'époque, bon, mais à part à ça, c'est un film qui marche toujours autant. Enfin,
L'histoire est tellement... dans le premier, comment ça commence de façon simple, ces travailleurs-là, le quotidien,
les truckers de l'espace.
Ouais, ouais.
Après ça, il y avait l'épisode 37, Edge of Tomorrow. Un film qui nous avait un peu pris par surprise tous.
Oui, parce que on est toujours surpris d'aimer un film avec Tom Cruise.
Ouais.
Hein, là, à la base.
Et là, c'était une excellente surprise.
Et là, c'est une excellente surprise. Et la gimmick fonctionne au bout. C'est le jour de la de Groundhog Day de la science-fiction. Ouais. Là. C'est vraiment ça, là,
ouais, c'est ça.
Ça se regarde avec plaisir. Les personnages sont bons. Le personnage féminin fort, ce qui fait tellement du bien dans le cinéma de science-fiction moderne. Là, parce que le cinéma de science-fiction d'aujourd'hui est souvent peuplé de gars et de femmes en détresse.
Ouais, c'est un genre de gars, et heureusement, ça change.
Ouais, mais ça c'était très, très bien.
Ouais, c'était un bon épisode aussi. Après ça, on a vu un épisode mémorable, l'épisode 39, Doctor Who.
Ah oui, avec Caro et Steve.
Avec Caro et Steve. Moi, c'était la grande découverte pour moi, parce que je ne connaissais pas du tout, ou très mal, très peu, Doctor Who. Donc, c'est un super beau souvenir.
Ouais.
Ça m'a ouvert un nouveau monde. Donc,
oui, qui est un genre complètement différent aussi. Ouais. Doctor Who, c'est britannique.
Donc, c'était un super épisode. Pour moi, ça m'a permis de découvrir tout un truc nouveau. C'est un super épisode. Avec Steve et Caro, c'est toujours super entertaining.
Avec Steve qui nous avait surpris en nous disant « Moi, je suis pas si grand expert de Doctor Who » jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était un gros mensonge, qu'il avait tout écouté Doctor Who puis qu'il avait plein de choses à dire. Je pense qu'il se comparait à Incomparable.
Ouais.
Enfin, ça, il est toujours plus geek que soi, mais c'est un bon épisode pour les fans de Doctor Who et ceux qui voudraient le découvrir, en fait. Hein? Vous pouvez, moi, je vous conseille de l'écouter.
Absolument.
Même si vous n'avez pas écouté la série, c'est sûr qu'on spoil toujours un peu, puis c'est mieux d'écouter pour pas perdre son plaisir. Mais ça peut être une façon aussi de s'éveiller à ça.
Après ça, on avait l'épisode numéro 40, Mad Max Fury Road, qu'on était aussi allé voir. Je pense pas qu'on l'avait enregistré derrière la production, mais on l'avait vu ensemble.
On l'avait vu ensemble, puis on avait invité Benoît Mercier.
Oui. Des Mystérieux Étonnants.
Des Mystérieux Étonnants, à venir en parler avec nous. Puis c'était un bel épisode.
Oui, excellent. Puis c'est toujours un plaisir avec Benoît, là. C'est vraiment bien. Après ça, on était en Suisse pour l'épisode 43 et on parlait de Blade Runner.
Ben oui.
Avec un très bon ami, un de mes meilleurs amis qui est réalisateur, producteur. Un épisode court, mais super intéressant. Quoi. Et puis en plus, dans un endroit différent. Enfin,
On était dans un autre, puis Blade Runner, c'est...
Et puis le dixième épisode, excuse-moi de t'interrompre, le dixième épisode, c'était l'épisode 45, c'était The Terminator, donc le premier épisode de la franchise.
On avait comme invité Pierre-Luc Junet, étudiant maîtrise à Concordia.
Incroyable!
Hein? Ouais, il nous a sorti une analyse de Terminator, on était comme wow, on était complètement époustouflés. Mais c'est super intéressant, c'est vraiment le fun. Puis alors, là, on va arrêter là parce qu'on pourrait parler des derniers épisodes qui sont très bons, parce qu'on a justement regardé ça, on trouve qu'on a fait des épisodes assez forts dernièrement.
Ouais.
Mais
là, en tout cas, c'est une bonne petite liste, une bonne petite dizaine d'épisodes sur lesquels revenir, là, surtout pour les nouveaux auditeurs. N'hésitez pas à vous manifester, à nous faire savoir que vous aimez ça et tout ça. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on va marquer marquer le 50e.
Oui, en buvant de la bière.
Voilà, et en buvant en buvant de la bière, une petite bière japonaise pour faire honneur au film de soir. C'était difficile de trouver un vin thématique, là.
Bah, t'aurais pu prendre du saké.
J'ai pensé prendre du saké, mais je suis pas un super fan de saké.
Moi, non, ça va, une bonne petite bière Sapporo.
Ouais, ça désaltère surtout.
Bière de riz.
En cette chaude soirée d'été,
ça
en
se prend bien.
Où?
Mais là, justement, on voulait faire des petites plugs aussi avant de lancer ce truc, parce qu'on n'arrête pas de faire allusion à des nouveaux auditeurs, c'est parce qu'on a eu l'honneur de...
Oui, on a été très honorés de faire partie de la sélection de podcast cinéma de Nabil Alexandre Chartier, il y a deux semaines de ça à peu près, dans l'émission Gravel le matin sur Radio Cannes.
Ben ouais.
Donc, on était tout fiers là, c'était
c'est cool d'être choisi.
C'était une belle surprise.
Maman, on ne
s'attendait pas du tout à ça.
Donc,
merci encore.
Ça fait toujours ça fait plaisir de s'être fait remarquer.
Parmi d'ailleurs deux autres. Enfin, il y avait, je crois, on était trois.
Puis ça nous donne envie de. Je pense qu'un des trucs qu'on va essayer de faire à partir de ce 50e, c'est peut-être de rencontrer d'autres podcasteurs, avoir des invités. Parce que là, on a beaucoup d'invités de gens qui sont dans le cinéma, qu'on connaît, qui travaillent dans le domaine ou qui étudient ou qui critiquent. T'es comme qui ont un point de vue. Puis ça, on va toujours en avoir parce que c'est vraiment intéressant, on trouve. C'est ce qui fait notre spécificité, hein? Nous, ouais. On travaille dans le milieu, mais on a une façon de regarder le film et d'en parler qui est peut-être différente de quelqu'un qui regarde que pour le plaisir ou que d'un œil critique. Mais par contre, on aimerait bien justement inviter aussi d'autres podcasteurs, des gens qui font des podcasts. Donc, ouais. Si jamais par hasard, vous êtes un podcasteur qui nous écoutez, puis aimez bien notre podcast, mais gênez-vous pas pour nous écrire.
Nous, ça nous fait plaisir de rencontrer ouais. Des collègues podcasteurs.
C'est ça,
puis,
du Québec.
De partager la passion du cinéma. Mmh. Et tout, mmh.
Puis ensemble. Si on se retrouve en Europe aussi, peut-être on pourrait aller explorer les podcasteurs d'Europe tant qu'à ça. Là, ouais. Comme quand on était en Suisse, ouais, on aurait pu en profiter. Mais bref, c'est ça. Là, je pense que de rejoindre la communauté des podcasteurs, on les connaît, on en a rencontré là, au cours ouais. des années, mais ça c'est dans nos vœux pieux.
Voilà. Puis, dans les petites plugs que j'avais envie de faire, en fait, il y a deux choses. Moi, il y avait notamment la saison 3 de la série animée Rick and Morty, qui vient de recommencer il y a comme deux, trois semaines. Là. Et puis, étant un gros fan de cette série, c'est une série qui passe sur Adult Swim.
J'en ai très beaucoup entendu parler.
Il faudrait que je te fasse voir ça. Je me disais même que ça pourrait être sympa de prendre peut-être une saison, pas forcément les trois, là, mais... une saison et puis d'en faire un podcast parce que c'est une série délirante avec des idées de fou là. Tu sais, c'est créé par Justin Roiland et Dan Harmon. Dan Harmon qui était le créateur de la série Community. Je ne sais pas si tu avais vu cette série.
Ben oui, tu me l'avais fait écouter puis c'était excellent.
Voilà, ouais. Et ils sont brillants ces gars-là. Là, et ça, c'est un délire. Ça, c'est un délire total. Tu sais, c'est les aventures de Rick Sanchez qui est une espèce d'inventeur fou, un peu à la Doc Brown, tu sais, de Back to the Future. Il y a un peu, il y a une claire référence à Doc Brown. Il vit des aventures intergalactiques et interdimensionnelles avec son petit-fils Morty.
OK.
Et puis, ça va chercher toutes sortes de références à la pop culture. Ça touche tous les genres de la science-fiction, là, tous les thèmes que tu peux imaginer. Et ils partent dans des délires, mais c'est hallucinant, quoi. Donc, moi, c'est une série que je recommande. C'est très drôle. Ça va très vite. Les dialogues sont c'est super bien écrit. Il faut s'accrocher parce que ça parle vite. Les dialogues sont très rapides, très intenses, mais c'est super drôle. Belle qualité
Good.
D'animation.
Bah, faut que je m'y mette alors, c'est ça, vraiment. Il faut absolument qu'on la fasse, en plus.
Ça serait vraiment le coup. Et puis, alors, autre nouvelle que j'ai remarquée, c'était un article qui était paru au mois de juin, mais moi, j'ai lu ça aujourd'hui, je suis tombé dessus complètement par hasard. Savais-tu qu'il y avait une série anthologique qui allait diffuser bientôt, enfin, un peu plus tard dans l'année, là, qui s'appelle Philip K. Dick's Electric Dreams? Donc, Philip K. Dick, donc, auteur de, notamment...
Oui, je sais qui est Philip K. Dick. On n'a pas besoin de le dire à nos auditeurs aussi. Blade Runner, Total Recall, Minority Report.
Voilà, exactement.
Quel autre film? Il y en a, on en oublie un.
On en
oublie probablement 15. Mais c'est quoi ce truc que tu parles?
Ouais. Vas-y. Ben, en fait, c'est les Anglais qui produisent ça. C'est Channel 4. Ça va être diffusé sur Channel 4 donc prochainement dans l'année en Angleterre et sur Amazon aux US. Donc peut-être que ça va arriver jusqu'à chez nous par l'intermédiaire d'Amazon Prime. Écoute, et derrière cette série, il y a notre ami Ronald D. Moore de Battlestar Galactica. Notamment.
C'est toujours
et puis,
de bonne nouvelle.
C'était quoi Star Trek? Il était dans Star Trek aussi à l'époque de...
Oui, Deep Space Nine.
Deep Space Nine, voilà.
Oui, mais il a commencé à écrire dans Next Generation.
Next Generation, oui.
Mais il y a beaucoup l'idée. C'est lui qui a pas mal l'idée, les bonnes saisons de Deep Space Nine.
Oui, c'est ça. Donc, il est là-dessus. Et aussi, de belles surprises aussi. Notre ami Walter White, notre ami Bryan Cranston.
Oui, parce que tu es en train de te taper Breaking Bad
en
maintenant.
Ouais.
Tu es en train d'en fait de rattraper un peu.
En plus, ça a l'air que notre ami Bryan Cranston est aussi producteur exécutif là-dessus.
Ah, oui, donc potentiellement dans le film.
Potentiellement dedans, oui.
Potentiellement dedans.
Et donc, série anthologique, donc à la manière de Black Mirror, de Twilight Zone, si on veut remonter plus loin. Là.
Mais
donc, c'est-à-dire que chaque épisode va être sa propre histoire. Là, c'est pas,
c'est aura... drôle, l'anthologie revient. Hein,
ouais, c'est la mode revient. Mais donc, tout ça, évidemment, tiré de nouvelles de
Philip K. Dick.
Intéressant. Super intéressant, ça.
Très intéressant. Très
donc,
bonne
c'est
idée.
C'est à garder sous surveillance.
Moi, je voulais vous parler, plug-in, un podcast que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai déjà parlé, je suis sûre, ici.
Ouais.
Mais ça fait longtemps, donc j'en reparle. Ça s'appelle Radio Lab. Puis pourquoi je vais en parler? Je voudrais vous inviter à écouter l'avant-dernier, je crois que c'est l'avant-dernier épisode qui s'appelle Breaking News. Enfin, le dernier ou l'avant-dernier épisode qui s'appelle Breaking News, parce qu'il parle là-dedans d'une technologie qui est vraiment très intéressante. C'est un des tropes de... Bon, en fait, il y a des films qui ont été faits un peu dans cette idée-là, mais... En fait, je dis que c'est un des tropes de la science-fiction, mais pas vraiment, mais ça ferait un méchant bon film de science-fiction, parce que c'est toute l'idée que maintenant, avec les nouvelles technologies, on va être capable de vraiment modifier des vidéos... et on sera pas capable de voir qu'il y a eu une modification. Autrement dit, moi, je pourrais être en train de parler, tu pourrais me filmer, puis je pourrais en dire, je ne crois pas, je sais pas moi, je ne crois pas qu'il faut sortir les poubelles le lundi. Hein? Puis là, ça pourrait être, on pourrait transformer ce que je dis en je crois qu'il faut sortir les poubelles le lundi, puis tu pourrais pas du tout savoir.
Tu serais incapable de déceler le...
Alors, en gros, ça amènerait ce qu'on appelle le phénomène des fake news, hein, qui a beaucoup joué dans la dernière élection américaine, à un autre niveau, ou à un niveau où est-ce qu'on ne peut plus croire ce qu'on voit, où on ne peut plus croire l'information. Et donc, ça pose beaucoup de questions sur comment cette technologie-là peut avoir un impact sur notre rapport à l'information.
Bon, c'est assez effrayant, en fait.
Ce l'est, puis en même temps, ça va peut-être remettre le journaliste à l'honneur, parce que là, le journaliste va devenir la personne en qui on va avoir confiance, parce que lui, il a de l'intégrité, et il va pouvoir dire, oui, j'ai interviewé cette personne-là, puis ce que je vous montre, c'est vrai, comme la personne qui écrit. Ça va peut-être être ça, je sais pas, mais je trouvais ça intéressant. Je me disais, ah, il y a quand même des... C'est pour les gens créatifs et tout ça, c'est du near future, du futur proche. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les science-fiction qui se passent dans un futur très proche. Mm-hmm. Ça pourrait être vraiment un sujet intéressant. Quoi. Voilà.
Cool. OK. Donc, quel est le nom de l'épisode, Tania?
Breaking News.
Breaking News.
Okay. Ben oui, c'est comme un jeu de mots. Hein? Breaking the news. Mm-hmm. Breaking news.
Ouais. Voilà. Un épisode du podcast Radio Lab.
Qui est magnifique. Vous pouvez écouter toute la série de ce podcast. Ça, c'est tellement un bon podcast.
Il faut que je fasse mes devoirs. Et puis, aussi, mais je sais que tu m'en dis du bien.
Mais toi, t'aimerais ça aussi parce qu'il y a quelque chose de très musical là-dedans, le travail du son et tout. Mais c'est un podcast qui date d'il y a des années. C'est un truc de NPR qui était à la radio.
Oh non, ils ont une réputation.
C'est vraiment. Oui, c'est probablement.
Ça fait partie des très connus là, dans le monde du podcast.
Oui, puis qui ont une écriture. C'est ça quand tu écoutes un épisode de Radio Lab.
Qui produisent ça.
Oui, c'est des gens de radio.
Tu sens l'expérience.
C'est des gens de radio, mais ils sont allés, mais ils ont comme maintenant, c'est dur de dire des fois les podcasts, la radio et tout, parce que c'est la radio publique, puis bon, c'est parti de la radio, mais il y a quelque chose de très, je sais pas comment décrire, de très, t'es vraiment en train d'écouter une histoire, mais c'est vraiment virtuose, c'est fait de main. Il y a des épisodes qui sont moins bons que d'autres, comme tout, là, mais... Ouais. Mais ceux qui sont bons, là, t'es vraiment comme captivé et tout. Là, moi, j'ai pleuré en écoutant certains épisodes. Il y a un épisode que je voudrais faire un film avec. Mais je sais pas si je veux faire un film avec parce que c'est sûr que je pleurais en faisant le film, là, tellement j'étais... Lucie, je vous le dis, là, celui-là. Lucie de Radio Lab. Oh, mon Dieu.
Ce qu'on est dans les podcasts, moi, j'ai commencé à écouter des collègues, justement. Il y a Vision X et puis Séance de minuit. Des podcasts québécois qui parlent du cinéma. Et puis, et j'aime bien ça. Là. C'est super intéressant.
Il faut que je les ajoute tout de suite. C'est quoi?
Vision X et Séance de minuit. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a certains films qui se recoupent. Donc, c'est intéressant d'entendre leur version du podcast.
Oui.
Et c'est rigolo, quoi. Ils ont une autre approche qui est super intéressante. Enfin, j'aime beaucoup. Bon. Donc, voilà. D'ailleurs, je crois que la gang de Vision X sont des musiciens... Fait que c'était assez intéressant de les entendre parler, des bandes sonores, tu sais, des bandes originales de films, etc., etc. Parce qu'ils ont un angle différent de nous encore.
Mm-hmm. Ben donc, oui, parce que c'est
ouais, donc c'est vraiment sympa. Voilà.
C'était, puis c'était quoi, l'autre? Vision X, puis l'autre?
Vision X et Séance de minuit. Si je ne me trompe pas, je crois bien que c'est ça.
Alors, là, c'est assez répété, là.
On plug les collègues podcasteurs.
Les collègues podcasteurs.
Qu'on ne connaît pas encore, d'ailleurs.
On ne connaît pas encore.
Soit dit en passant, mais ça serait intéressant de se rencontrer.
On va leur faire un petit coucou. Maintenant, je regarde les noms, ça ne me dit rien.
Salut.
Nous, on les écoute maintenant.
Ouais.
Voilà, c'est dans ma liste. Hey.
Bon, on va y aller avec nos petits résumés.
Allons-y avec nos petits résumés.
Bon, alors.
Le petit résumé de Tetsuo. J'ai hâte d'entendre ça.
Un chauffard fauche un homme en plein milieu de la rue et le tue. Après l'accident, il souffre d'un mal étrange. Il va voir cette maladie l'envahir en découvrant d'abord une pointe de métal sortir de sa joue. Je reste très très vague.
Ben, ça résume bien.
Ouais, ça résume bien. Alors, Marie-Louise, toi, tu n'avais jamais vu ce film.
Je n'avais jamais vu ce film avant cet après-midi. et je suis encore sous le choc. Non, attends, j'exagère. J'avais un petit... avec la manière dont Nick essayait de faire changer le podcast, d'essayer de faire changer le film...
Ouais, parce que, ouais,
j'avais une petite appréhension sur le film.
J'avais quand même un doute. Je me disais, ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film. Est-ce que ça vaut la peine d'en faire un épisode? Est-ce que...
Enfin, écoute, bref, donc, voilà. Puis quand j'ai commencé à l'écouter, très vite, j'ai fait... ah tiens, j'avais pas vu... Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une scène qui me faisait tourner la tête. Mais j'ai pas trouvé tellement que c'était un film d'horreur, en fait. C'est ça qui s'est passé. Je pensais que ça serait plus horreur que ça. J'ai trouvé que c'était plus, à la limite, expérimental. J'ai pensé, évidemment, j'ai vu plein d'influences de ce film-là, tu sais, qu'on va nommer tantôt, puis ça... Mais en même temps, si on prend juste le film comme tel, c'est pas un film qui est mauvais, mais c'est pas un film qui est bon, selon moi. Tu sais, parce que dire que c'est carrément mauvais, ça serait malhonnête, parce qu'il y a comme, il y a beaucoup de je trouve, il y a un côté expérimental au film qui m'a pas déplu. Un petit côté. Puis aussi, quand tu penses que ça date des années 89, tu reconnais un peu les obsessions de l'époque, tu sais. Justement du côté cyberpunk, du côté les techniques utilisées de stop motion qui pouvaient à l'époque être assez audacieux dans une sorte de long métrage, là, même si ça fait 1h10, c'est presque un moyen métrage. Mais qui aujourd'hui, ben c'est sûr qu'aujourd'hui on ferait plus ça comme ça, ou si on fait du stop motion, ça serait peut-être plus stylisé là, tu sais, donc. Mais ouais, je sais pas si c'est comme mon mot de la journée, mais j'étais comme pas en plus emballée, là. Je trouvais qu'il y avait pas d'histoire, puis ça m'agace toujours un petit peu quand un film a pas vraiment d'histoire, tu sais, ça...
En même temps, comme tu dis, c'est un film expérimental.
Ben, c'est la définition du film expérimental, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Ouais, ben il y a des films...
En tout cas, pas forcément. Hein.
Ouais, c'est vrai. Puis j'aime bien le cinéma expérimental. Peut-être que j'ai pas. C'est peut-être que c'est un truc qui est pas assez expérimental, en fait. Peut-être qu'il y a une proposition d'histoire. Puis, mais oui, on est dans le nouveau roman du cinéma là, tu sais. Puis c'est japonais, mais c'est ça. On pourrait rentrer dans le vif là, du sujet, mais mon feeling était comme est-ce que je conseillerais aux gens de voir ça? Moi, je dirais que ça dépend de quel type de personne vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui aimait le petit côté adrénaline, tu sais, genre que les choses bougent beaucoup, etc., vous allez trouver votre compte là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de... Ça bouge beaucoup, hein. Ça change tout le temps, les images. C'est très dynamique, avec une musique très intense, là, tu sais, qui prend la place. Ben, il me semble. J'ai comme souvenir d'un... Tu sais, je me disais, métal hurlant, là. Mais si vous êtes à la recherche de... Mais par contre, au niveau de la proposition poétique, au niveau de la proposition narrative, peut-être moins symbolique, oui, il y a beaucoup de symboles qui sont là. Donc, tu sais, c'est pas un film inintéressant à regarder. Puis c'est ça que je me disais, en fait, en venant dans le podcast, c'est on pourrait l'analyser, puis commencer à avoir des propositions, puis voir la société japonaise de l'époque selon certains, tu sais, mais là ça tu dis ouais, mais ça fait comme tirer par les cheveux, tu sais, c'est pas d'un grand intérêt. Je pense que le petit gars, il tripait plus à faire son film, puis il était comme un peu, tu sais, il y a des trucs drôles là, le pénis, l'espèce de truc,
le drill,
là,
ouais,
la drill qui est son pénis.
Ça, c'est la scène mémorable.
Tu sais, donc il y a des bonnes idées, il y a des idées justement que, ouais, tu sais, que tu te dis, bon, ben, tu sais, je sais pas, j'ai pas suivi la carrière de ce cinéaste-là, je sais pas ce qu'il a fait après, mais tu te dis, OK, c'est pas. C'est amusant, mais est-ce qu'on va au-delà de l'expérience d'un bon film étudiant? Je suis peut-être un peu méchante quand je dis ça, là, tu sais. Parce que c'est quand même un film qui a parlé à une certaine. On dit que c'est un film culte. Moi, je pense qu'on exagère, c'est un film culte, là. Je pense que toi puis moi, on connaît personne qui l'a vu. Il faut vraiment être dans une sous-classe, là. Enfin, c'est un film culte dans un...
Je pense que la gang de Fantasia, dans c'est le genre de truc qui
oui, c'est ça. Mais c'est dans une niche. C'est dans une niche de gens, tu vas trouver ça bon. Mais est-ce que c'est pris au sérieux? C'est ça la question, tu sais. Mais c'est pas un film sérieux, tu vas me dire, Marie-Louise, calme-toi. Il y a comme un niveau d'humour, là, mais ouais, anyway. Pis toi, Nick, parce que là, il faut que j'arrête, là, ouais. je m'endors moi-même.
Non, écoute, moi, j'avais déjà vu ce film il y a longtemps.
Quand et
une
comment?
Seule fois. Écoute, je me rappelle plus quand c'était. Je pense que j'étais. J'ai souvenir de l'avoir vu alors que j'étais en vacances avec Xavier, mon ami avec qui on a enregistré le podcast de Blade Runner, dont on parlait tout tantôt. J'étais en vacances avec lui à Barcelone et j'avais rencontré toute une gang d'amis à lui, dont notamment une amie qui était productrice. On était allé dîner chez elle et puis je sais que je me rappelais que. Il me semble que je l'avais vu là, ou alors je l'ai revu là. J'ai de la peine, à me souvenir, mais je sais qu'on s'était fait une soirée, on avait vu des films un peu trash. Quoi. On nous faisait voir des films espagnols aussi. C'était rigolo. Et donc j'ai un peu de mal à me rappeler exactement quand je l'ai vu, mais je sais que je l'avais déjà vu là. Et à l'époque, ça m'avait un peu. C'était pas un genre qui me parlait. Je cherchais peut-être plus du mainstream à l'époque. J'allais moins fouiller.
Parce qu'aujourd'hui, quand tu l'as vu, tu as été charmé.
Non, c'est pas que j'ai été charmé, mais en fait, c'est ça. Je me disais, est-ce que ça vaut le coup? Je sens que ça va pas me plaire. J'ai pas envie. Je sais pas si j'ai envie de voir ce film en fait et tout. Et en fait, je me suis mis devant. Puis je trouvais ça assez intéressant. C'est pas un grand film. C'est loin d'être un grand film. Mais comme tu dis. J'ai aimé le côté expérimental, j'ai aimé l'expérience sensorielle que c'est, en fait. Tu sais, je me suis installé, tu sais, les enfants sont allés à la piscine avec ma blonde. Puis,
J'espère que tu n'avais pas un enfant à côté de toi quand tu regardais ce film-là.
Puis justement, je l'ai vu sur mon écran, puis j'ai monté le volume, puis tu sais, j'ai essayé de rentrer dans le truc, tu sais, de me dire, OK, je vais essayer de le voir tel qu'il est, t'es comme supposé le voir, tu sais. Et puis... Puis j'aime bien en fait ce côté expérience sensorielle délirante là, tu sais, où tu as cette musique qui te tape sur la tête, tu sais, musique industrielle là.
C'est ça que je cherchais, industrielle. Ouais, musique voilà, industrielle, tu l'as.
Ce qui était très drôle
d'ailleurs.
Ce qui
était très innovateur à l'époque, en 89, techno industriel, ça commençait, tu sais.
Exact.
À Londres, là, c'était
puis,
le début, là.
Ouais, puis le montage syncopé, enfin le montage effréné, le stop motion, enfin tu sais, qui te flash à la face, enfin c'est vraiment... je pense que pour l'époque, c'était du jamais vu. Mais en fait, je lisais que...
C'était pas du jamais vu. Svankmajer en avait fait beaucoup de films qui mélangeaient stop motion.
Qui c'est que ça?
Svankmajer avait fait beaucoup de films qui mélangeaient stop motion puis images réelles.
Mais je pense qu'au Japon...
C'était pas mélanger le stop motion avec... c'est pas quelque chose de très mainstream parce que ça marche pas dans le cinéma mainstream.
Ouais.
C'est soit que tu fais tout en stop motion, puis là, les gens acceptent qu'ils sont dans un univers stop motion, genre. Nightmare Before Christmas. De Tim Burton, où est-ce que là, tu sais, c'est du stop motion, mais tu acceptes parce que c'est ça ta proposition, tu sais.
C'est la technique utilisée pour
tout le film. Ou t'en as pas, parce que si tu mélanges les deux, tout de suite, tu crées. Ben là, c'est ça. Quand tu regardes les films de Svankmajer, que j'adore. Là, c'est vraiment des proportions très poétiques. Là, ça crée quelque chose d'un peu bizarre.
Ou alors, tu arrives à un niveau d'exécution comme dans Star Wars, comme dans ces films de cette époque-là, où tu sais, ils allaient animer des monstres, des machins et tout en stop motion, puis c'était avaient des techniques qui faisaient que ça s'intégrait dans l'image.
Ouais, mais même les vieux Star Wars, quand tu les écoutes, là, tu le vois, là, que c'est du stop motion. Aujourd'hui, on n'est plus capable.
Je pensais tout à coup au premier Evil Dead. Dans lequel tu as des effets de décomposition comme ça, tu vois des cadavres qui se décomposent en stop motion, là, de manière accélérée.
Je sais pas, il me semble que je l'ai vu ce film-là, je suis même pas sûr que j'ai vu.
Ah, si tu l'as pas vu, il faut le voir absolument. Là. Mais donc, pour revenir à ce que je disais.
Evil Dead, c'est pas le truc du chalet?
Oui, c'est le chalet dans le bois.
Ah, ben oui, mais j'ai commencé à l'écouter Evil Dead, mais j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie. J'étais très contente. Parce que justement, comme je disais tantôt, les films d'horreur, j'ai de la misère.
il est bon, celui-là. Oui, réalisé aussi avec des bouts de ficelle.
Il faut que je finisse.
Aussi réalisé avec des bouts de ficelle. Donc, oui, alors ce que j'allais dire juste, c'est que. Donc, ça a l'air que ce film est venu à un moment dans le cinéma japonais où il y avait comme un espèce de down, quoi. Une espèce de période creuse. Il y avait eu. Les grands réalisateurs,
Ozu,
tout ça, etc. Voilà, Kurosawa, tout ça. Et puis, le cinéma était arrivé un peu à un espèce de creux. Et tout à coup, t'as cet ovni qui a débarqué, puis qui a comme secoué tout le monde, tu sais. Qui a inspiré, en fait, des gens par la suite. D'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai un peu lu ici et là, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. On trouve peu d'informations sur ce film. Mais c'est particulier. C'est tourné en 16 mm, en noir et blanc, éclairage très minimaliste, tu sais, qui te donne un effet un peu expressionniste, là, tu sais, des gros plans expressionnistes avec juste lumière dans la face et tout. C'est particulier.
Oui, puis ça fait, c'était son troisième film, mais les deux autres, c'était du 8 mm. Donc, ouais. Tu sens le jeune cinéaste. Là. Ouais. Tu sens. Donc, il faudrait peut-être aller visiter les autres, voir qu'est-ce que ça dit. Mais, ouais. Tu sais, des fois, après
il y a
ça.
Il y a eu des suites aussi. Oui, il y a eu deux suites avec un peu plus de budget, mais je sais pas. Mais paraît-il qu'ils sont moins. Il y a moins le côté innovateur, entre guillemets, de celui-là.
Ben celui-là, j'ai pensé à Sion Sono quand j'ai vu ça, en fait.
Ah ouais?
Ouais, moi, j'ai pas vu beaucoup de films de Sion Sono, qui est l'enfant chéri de Limier.
Ouais.
mais c'est ça, ça me fait penser, c'est un petit côté, c'est le côté absurde, hein, puis le côté, justement, proposition, comme tu disais, sensorielle. Tu sais. Mm-hmm. C'est dans la lignée des Svagmaer, parce que Svagmaer, c'était le tactilisme qu'il inventait mm-hmm. au cinéma, puis c'était vraiment sa notion. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était des films que tu ressentais dans ton corps. Tu sais. Ils ont beaucoup aussi parlé, quand on parle de ce film-là, on parle de Cronenberg, qui lui aussi est très fort dans le tactilisme, moi, je trouve. T'es très, dans Cronenberg, t'as beaucoup de ses films,
ouais, puis,
t'es dans une sensation physique de la chose.
La mutilation.
La mutilation,
c'est très cronenbergien. Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, quand tu vois ça, j'ai pensé à Vidéodrome, j'ai pensé à Rabid, enfin des trucs comme ça.
C'est sûr qu'il y a vu. C'est drôle, j'ai lu une critique. C'est pour te dire qu'on ne trouve pas grand-chose. La critique avait écrit que Tetsuo avait inspiré Cronenberg. Là, j'étais comme, mais non, chérie, c'est l'inverse.
Ah ouais.
Allô, c'est 89.
Là, c'est Eraserhead. Non, excuse-moi, c'est Lynch. C'est Lynch.
Mais
moi, j'ai vu Eraserhead de Lynch, mm-hmm. Vidéodrome. Enfin, tu sais, j'ai vu ces films-là.
Ouais. Eraserhead, qui était le premier film de Lynch aussi, donc qui est comme un parenté au niveau de
aussi en noir et blanc. Aussi,
ouais.
Donc, oui, non, il y a clairement des influences là. Je me suis même demandé s'il y avait un lien avec Akira, tu sais, le film d'animation japonais qui est venu, qui était sorti l'année précédente.
Il y a un personnage qui s'appelle Tetsuo.
Il y a un personnage qui s'appelle Tetsuo, puis qui lui aussi est comme rattaché à une machine. À un moment donné, il y a pas quelque chose comme ça, non? Il y a pas une histoire de lien avec une machine.
Oh,
puis,
mais ça fait longtemps que j'ai lu Akira, ouais, j'ai complètement oublié.
Ça fait
oublié,
super longtemps. Là, d'ailleurs, ça serait intéressant de faire un épisode dessus. C'est un film majeur.
Parenthèse. Oui. Tous nos auditeurs, nos nouveaux auditeurs, qui sont en train de crier dans leur salon, mais gang de débiles, pourquoi vous avez pas choisi Bataille Royale plutôt que Tetsuo? C'est parce qu'on l'a déjà fait.
On l'a déjà fait, Battle Royale. D'ailleurs, c'était un bon épisode aussi.
Aussi. Mais allez retourner voir Bataille Royale. Puis, ben, moi, je voulais rester dans le cinéma en images réelles. J'avais pas envie qu'on aille dans l'animation.
Dans l'animation, ouais.
Parce que c'est ça, l'idée, c'est comme le défi, c'est de trouver des c'est sûr que ça aurait été comme un peu une facilité d'aller du côté de l'animation pour le cinéma japonais. Puis c'est vraiment, on est dans une recherche d'un cinéma de science-fiction qui n'est pas qui n'est pas en langue anglaise et science-fiction ou pas. Parce que j'écoutais ça, j'étais comme, pour moi c'est de la science-fiction parce qu'il y a une proposition de gens qui vont faire une sorte de truc d'apocalyptique. Ouais. C'est comme c'est le transhumanisme aussi, c'est l'obsession du corps qui est complètement transformé par la machine.
Ouais. Ben, moi c'est ça qui m'a fait le mettre dans la catégorie science-fiction. Okay. Il est plus considéré comme un film d'horreur, mais
moi je trouve que non, je trouve qu'il est pas si horreur que ça.
Non, mais il y a quand même il y a une certaine dose de gore. Puis
oui, mais il y a une certaine dose de gore, mais j'ai eu plus peur à écouter un Alien que ça.
Oui.
Le petit côté, le genre tension, horreur, tu l'as au début quand il s'ouvre, là, ça fait gore.
Ouais.
Puis après ça, quand il se sert de son pénis.
De sa drill.
On sait qu'il va s'en servir. Tout le monde est comme non.
Ouais,
mais à part ça, le reste, c'est plus l'action, ça se court après.
Ouais, il y a cette poursuite complètement
dégueu,
folle
là,
à la fin. Là,
la métamorphose est dégueu, mais est-ce que c'est de l'horreur? C'est ça, c'est très Cronenberg. Cronenberg,
ouais,
est-ce qu'on dit?
Ouais, c'est du body horror, là, ça rentre dans ce genre-là.
Ouais.
Mais, évidemment,
mais pas au niveau d'avoir des palpitations.
Non,
là.
Non,
pas au niveau de.
Non. Non, mais en tout cas, je pense que si les gens sont ouverts à ce genre d'expérience particulière, assez intense, mais qui n'est pas inintéressante, quoi, parce qu'il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Tu sais, j'ai quand même. Le fait que le film est court aide beaucoup, parce que je ne pense pas que j'aurais pu supporter 2 heures d'un truc comme ça.
C'est un excellent film à sortir en fin de soirée quand tu veux finir un party.
Tu veux que les gens s'en aillent.
Les gens s'en aillent. Très pratique. Gardez-le sur votre tablette.
Je pense que c'est le genre de film qu'on voyait aussi projeté sur des écrans pendant des soirées techno et des trucs comme ça, tu sais.
Oui. T'sais, oui, les rêves, les
trucs. Tu projettes sur des écrans comme ça, puis tu regardes vaguement, tu vois les trucs trash qui passent comme ça.
Oui, non, c'est vrai. Trucs. C'est vrai, ça serait parfait pour ça. Ah ouais, genre pour
la grosse musique.
Les DJ. Ouais,
ouais. Et c'est drôle.
Ouais. Quoi d'autre à dire sur ce film? Le jeu des comédiens.
C'est très. Moi, par moments, je trouvais ça très théâtre kabuki, tu sais.
Ouais.
C'est leur face déformée.
Oui, oui,
ah, là,
ça faisait.
Yeux,
ah, ça faisait vraiment kabuki.
Ouais, c'était drôle. Oui. En fait, c'est ça qui m'a amusé dans ce film, c'est de voir toutes ses influences. T'sais. Il a comme.
Puis il y avait aussi de la danse.
Il dans
aussi.
Le saladier, puis il a brassé tout ça. Puis...
il y avait de la danse aussi. Comme un peu du. Voyons comment ça s'appelle. J'ai un autre qui me vient en tête, mais c'est l'autre théâtre avec les marionnettes. C'est le. Buton. C'est un petit truc un peu déformé, les cris. Ouais. C'était pas du buton, mais les mouvements, à un moment donné, je trouvais que ça faisait penser un petit peu à du buton. Là. Leur façon de bouger là, était comme ça. Mais le kabuki aussi, comme tu dis. Ouais.
Puis, je pense qu'après, il y a un discours aussi, tu sais, la surindustrialisation, le fait que ça soit un. Ce que les Japonais appellent un salaryman, là, tu sais, genre.
Oui, le fameux salaryman.
Ouais, le salaryman. Je sais pas comment on traduit ça en français, là, s'il y a un mot pour le tu sais.
C'est le
cadre, genre un cadre, le moyen.
C'est même pas un cadre. C'est un travailleur.
C'est en dessous de ça, là, ouais.
Je pense que c'est un concept très japonais, le salaryman.
Un bureaucrate,
Non, mais on n'a pas.
Un bureaucrate basse classe, là. Je sais pas quoi dire.
Bureaucrate. Ouais, mais c'est vraiment les salaryman.
Oui, c'est ça. Je sais qu'ils ont ce mot-là.
C'est le mot en japonais, ils disent un salaryman. Ça veut dire que c'est n'importe qui travaille dans un bureau. C'est un col blanc, si tu veux. Un commis de bureau. Commis de bureau. N'importe qui travaille dans un bureau. Nous autres, ici, c'est juste qu'on les divise en classe. Là.
Ouais.
Tu vas voir, si tu travailles, il va y avoir quelqu'un qui est en marketing, quelqu'un en ressources humaines, quelqu'un qui est.
Mais pour eux, c'est tous des salarymen.
Oui, c'est tous des salarymen, je pense. Ouais. C'est ce que j'ai bien compris du truc. Là.
Ouais.
C'est un phénomène. Ouais, donc ça c'est le salaire humain, puis qui est comme
poursuivi par ce fétichiste
du métal
là, qui est jamais vraiment défini comme tel, mais qui
on ne sait pas exactement c'était quoi, pourquoi il s'y mettait du métal dans le corps.
Non.
C'est un peu comme ça qui s'est expliqué, c'est comme ça que ça a été interprété par les critiques anglais. Puis c'est vrai que comme
quoi le fétichisme de métal.
Ouais, le fait qu'il s'ouvre puis qu'il se pète, parce que ça pourrait être le gars, on le sait pas, il pourrait avoir une raison.
Mais il est comme possédé finalement, c'est comme s'il est possédé par une espèce de d'entité maléfique qui veut détruire tout le monde. Qui veut transformer le monde en
métal. À la fin, c'est magnifique quand ils partent les deux.
Oui, une espèce de montagne de métal. Là,
ils
partent
à la
conquête
fusionnés.
Du monde. Ouais.
C'est comme genre, avec notre amour, on va détruire le monde. En fait, je pense que c'est ça qui me fatigue avec le film. C'est que c'est un film qui pourrait être très drôle, mais qui ne l'est pas autant qu'il pourrait être.
OK, je comprends.
C'est comme vrai. Bataille Royale, c'est très drôle, tu sais. Tu ris.
Oui, en tout cas, il y a.
Ben oui, c'est de l'humour, là.
Ouais, tu peux l'interpréter comme tel. Celui-là, il y a comme moins la place à l'humour.
Parce qu'il se passe trop de choses qu'on comprend pas, puis que c'est un peu absurde, puis c'est n'importe quoi, tu sais.
Ouais.
Tu comme, quand il passe 10 minutes à dire bonjour au téléphone, mouchi mouchi bonjour, tu sais, c'est quoi qu'il veut représenter? Ils sont toutes les deux possédées, sont en train de se transformer, sont malades.
Est-ce que c'est juste
il
pour
voulait juste rajouter 10 minutes à son film, puis il savait pas comment le faire. Tu sais? C'est que ça devient.
Pour pouvoir être distribué en salle, parce que sinon il était trop
court. C'est ça. Donc il a pris le mouchi-mouchi.
Non, moi je me suis dit, est-ce que c'était un espèce de truc symbolique pour signifier une discussion banale, tu sais? Une espèce de discussion banale de
aussi.
Tous les jours, que,
ben là,
c'est inintéressant.
T'es dans l'abstrait. T'es pas dans l'absurde drôle. L'absurde?
Non. Ouais, ouais, ok.
L'absurde devient drôle, mais comme là t'es dans une espèce d'abstraction symbolique des choses, tu sais.
Ouais.
C'est comme quand t'es dans un musée puis tu vois. Un carré de Rothko, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de proposition narrative. Tu peux trouver ça beau. Moi, j'aime ça, en passant, c'est genre j'aime l'art contemporain, là, c'était pas du tout pour critiquer. Mais j'ai pas une émotion d'humour, là, j'ai pas une émotion, c'est pas une satire, tu sais. Tandis que souvent, l'absurde au cinéma nous amène dans une satire, puis c'est le fun, c'est agréable.
Ouais.
Puis un Lynch fait ça de façon brillante parce que c'est pas toujours de l'humour, mais t'es souvent dans une satire. Il surfe sur l'absurde de façon magnifique, tu sais. Cronenberg aussi surfe sur l'absurde de façon inquiétante, étrange. Donc, c'est vrai que l'absurde n'est pas toujours humoristique. Mais dans ce film-là, moi, je voyais beaucoup d'espace à ce que ça soit de l'humour. Parce qu'avec son gros pénis en drill, ouais. À la fin, les deux gars, qui, avec l'amour, on va, tu sais, puis qui se trippent, ils sont comme, c'est un ensemble. Puis là, c'est comme, ah, je me sens bien, soudainement, tu sais. Pendant que tout le long du film, il est en train d'avoir mal, là, partout, là. Puis là, ils vont aller, comme, démolir la planète, tu sais.
Ah, attends, ça me fait penser.
Mais tu sais, c'est drôle, ces moments-là. Puis évidemment, il y a des bouts drôles aussi quand il fait l'amour avec sa blonde partout, pour aucune raison. Ouais. Tu sais, quand il est en train de se transformer. Tu sais, il y a bien trop de scènes de baise, là. Puis on voit bien que c'est ridicule, là. Voilà.
Attends, ça vient de me faire penser à un film. Ah voilà, un court-métrage d'un réalisateur français qui s'appelle Yann Kounen, qui s'appelait Vibro Boy.
Quelle époque?
Et qui était un espèce de. Alors attends, ça c'était dans les années 90? Ou est-ce que je me trompe?
Mais tu vois, t'es sûr?
Ah bah, je pense que oui, là, justement. 94.
Ouais.
Et si vous avez l'occasion de voir ça, c'est assez drôle. Mais ça, c'est du gros délire, tu sais, espèce de. Pas un super-héros, mais un super méchant avec un gros god à la place du pénis, un gros truc comme ça. Ouais, oui, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a une influence directe. Puis lui, par contre, alors lui, il va dans l'humour, tu sais,
ouais.
L'humour cru, mais dans l'humour. C'est comme plus justifié.
C'est ça, donc... c'est que Tetsuo, c'est comme un film qui est comme pas quelque chose, tu sais, comme rien. Ouais. Il est comme entre plein de petits trucs, tu sais. Je me demande si dans Tetsuo, c'est ça, je pense au manga que j'ai vu et tout, puis il y a, tu sais, tu penses à un truc comme Fullmetal Alchemist, mm-hmm. Où est-ce que c'est des enfants qui se transforment, tu sais, il y en a un, il y a comme justement un bras de métal, ouais. Parce qu'il faisait de l'alchimie, puis il savait pas le faire correctement, donc son frère est transformé en bonhomme de métal, puis lui, il y a un bras de... Un de ses bras, c'est une espèce de truc, tu sais, métallique, justement, tu sais.
Ouais.
Mais ça, c'est probablement influencé. Puis c'est magnifique, hein, Fullmetal Alchemist,
ouais,
c'est vraiment beau.
Oui, tu en as déjà
beau.
Parlé, là,
ouais,
faut ouais. Que je
vois
ça.
Oui, mais
c'est quoi, c'est une série, c'est un long-métrage?
C'est un manga.
OK, c'est un manga.
Je crois que c'est un manga, à la base, qui est devenu un animé. Mais des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est un manga, puis ils font un... Des fois, c'est un animé, puis ils font un manga. En général, c'est... Puis c'est assez rare, parce que c'est une femme qui a écrit ça pour un public de garçons. D'habitude, c'est les hommes qui écrivent pour les publics de garçons, puis les femmes écrivent pour les publics de femmes. Donc, ça fait une série qui est un peu métissée,
ah, okay.
Qui est comme qui a une sensibilité, parce que tu sais, souvent les trucs pour les au Japon pour les gars sont très très aventure, très ben tu sais typique là, genre gars. Puis mais là, elle a comme plus, il y a comme un petit côté avec plus des émotions là, qu'on verrait dans des séries comme les Cités d'or, les Heidi, les petites séries là qui font pleurer pour filles, les Candy, tu sais. C'est pas cet extrême là du tout là, ça reste très dravé, action, il se passe des choses et tout, c'est très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé Fullmetal Alchemist. Donc tu sais, ça me fait penser à ça, l'espèce
peut-être
de
peut-être qu'il y a une inspiration, parce que je pense que ce film a comme inspiré d'autres gens qui ont pu faire des choses avec un budget plus conséquent, parce que lui, c'est vraiment du...
Ben, c'est peut-être une obsession.
C'est
aussi,
vraiment de la bricole, c'est fait avec des bouts de ficelle, littéralement. Des bouts de métal.
Oui.
Le gars, il devait faire la tournée des cours à scrap, là, puis c'est assez fou, là. Mais ouais, et puis ça a l'air qu'il a fait son film tout seul. Ou en tout cas, il a commencé avec une équipe qui, à mesure que ça avançait... Quitter le tournage parce que c'était ça, comme trop intense, trop...
Oui, c'est vrai, ça, j'ai lu,
trop n'importe quoi. Puis le gars s'est trouvé tout seul pour finir son film. Il joue dedans, d'ailleurs. C'est lui qui joue
le petit fétichiste de métal. Oui, c'est ça, le fétichiste de métal.
Puis je crois que la fille... ils ont tourné comme chez la fille. Toutes les scènes d'appartement sont tournées chez elle. C'est entre elle et lui qui font la caméra. Enfin, ça a l'air d'être vraiment...
L'acteur principal fait aussi la caméra.
Oui, il fait aussi la caméra. Enfin,
c'est lui qui fait
Tetsuo.
C'est un truc, ce kino, là.
Ouais,
c'est un truc qu'on s'arrange en nous. Puis c'est ça qu'on devrait faire. On devrait faire un film de même, toi et moi, là.
Un délire comme ça, oui.
Ouais,
ça a l'air que c'était une pièce de théâtre au départ.
Oui, qu'il avait écrit. Une pièce de théâtre que lui avait écrit.
Ouais.
Donc, c'est pas une pièce de théâtre qui existait.
Non. Ouais, d'accord. Non, c'est vraiment un truc, ça a l'air d'être un truc obsessif pour lui, là.
J'ai rien trouvé qu'il lit Fullmetal Alchemist à Tetsuo. Ah, ça, ouais. Ouais, ben, c'est anecdotique, hein, ça reste juste un petit élément.
C'est peut-être quelque chose qui est comme. Qui fait partie de la culture japonaise. Parce que,
cyborg?
Tu sais, les robots, les robots géants et tout ces trucs-là, tu sais, ils trippent là-dessus. Tu sais, les kaijus aussi, les monstres.
Le monstre qui va détruire tout, là. Ça se termine.
C'est des monstres mutants, tu sais. Il y a tous ces trucs de la mutation, tu sais, c'est des thèmes qui reviennent, là. Je pense que c'est peut-être aussi inspiré.
La mutation, j'ai pensé beaucoup aussi au. Les bombes nucléaires. Ouais. Tu sais, comme quand il disait, je suis transformé et tout, puis elle dit, j'ai pas peur, je peux te voir, ben, ça me faisait penser à ces gens-là qui étaient brûlés vifs, que leur corps...
Après la bombe atomique,
ouais. Là, puis que...
Tout ce trauma de la bombe atomique Godzilla et tout ça, le Godzilla original.
Ça fait partie de la culture, ça fait partie des obsessions. Nous, on a nos obsessions catholiques au Québec. Là, tu regardes attentivement toutes les productions québécoises, là, tu peux pointer le prêtre, la bonne sœur, la vieille fille, le village, toutes les obsessions. Puis ça fait peut-être partie aussi un peu des malentendus quand les immigrants arrivent puis qu'ils se sentent pas représentés dans la culture québécoise, puis sont comme frustrés de pas avoir la place. C'est qu'en même temps, ces codes-là, ils existent, puis c'est ça qui est dur à casser, parce que quand tu construis ton histoire, tu la construis autour de tes mythes culturels, hein, puis c'est ça que tu craches en tant que créateur. Donc, je pense que quand on regarde des trucs comme au Japon, ils ont leur propre mythe culturel, ou quand on parlait la dernière fois de... Stalker de Tarkovsky, ben c'était aussi les mythes russes là, avec Anastasia, on avait une belle perspective là-dessus. Malheureusement, j'ai pas de japonais.
T'avais pas de japonais sous la main.
J'ai cherché des invités, mais j'ai pas de japonais sous la main, c'est triste.
Ouais, donc c'est ça, quoi dire d'autre en fait sur ce film.
Oui, on cherche.
Parce qu'on veut pas faire,
le film dure juste une heure. C'est correct, si on fait un petit podcast court là, cette fois-ci.
Non, mais je pense sincèrement que c'est un film dont tu fais l'expérience. C'est pas forcément facile d'en parler ou d'avoir beaucoup de choses à dire dessus, mais tu le vis. Enfin, quand tu ressens quelque chose quand tu le vois, c'est ça que je veux dire. Je pense que ça a un impact, positif ou négatif, mais ça a un impact, cette réalisation, cette manière, ce montage de fou. Excusez-nous pour les bruits d'hélicoptère dans le fond. On a la fenêtre grande ouverte, c'est une soirée...
Fait chaud quand même.
Une soirée chaude. Ouais.
Donc bref, c'est un film qui est plus dans l'expérience...
L'expérience sensorielle, oui.
L'expérience sensorielle. Puis
plus que dans l'analyse, finalement.
Mais ce que je trouve, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, des films comme ça.
Non, mais je pense que c'est ce qui lui donne, justement, c'est ce qui crée son intérêt, finalement. C'est un peu un ovni, c'est un film étrange.
Mais les gens résistent
pas terrible,
à ça.
Mais je pense qu'il y a un public pour ça.
Oui. Mais moi, je suis un public pour ça, en fait, mais c'est pour ça que je trouve ça étrange de ne pas avoir trippé à fond là-dessus, mais... c'est bon, on n'est pas obligé de toutes les aimer.
Non, on n'est pas obligé de toutes les aimer, non. Mais je me suis surpris moi-même à... C'est pas que j'ai adoré, mais à finalement être là. Ah bah ouais, finalement, je suis content d'avoir revu, là. c'est comme... C'est un film qui...
Probablement qu'avec un petit joint ou un petit truc, ça se passe mieux encore.
Peut-être.
On sent.
Ouais, peut-être. Puis,
Qui devrait voir ce film-là aussi? Moi, je dirais que ça peut être aussi les gens qui sont à la recherche, justement, d'un cinéma plus expérimental. Tous ceux qui aiment Lynch, tous ceux qui aiment Cronenberg.
Ouais, je suis d'accord.
Allez voir ça. Puis, si vous êtes parmi les artisans du cinéma, là, qui fait du cinéma, ça peut être intéressant parce que c'est pas inintéressant le mélange du stop motion puis comment ils le traitent, quoi.
Ouais.
Parce qu'on parle du stop motion, puis là, les gens s'imaginent peut-être un stop motion un peu plus. Banal, mais il est très... c'est très dynamique, là,
tu sais. Très dynamique.
Ouais.
Et puis c'est vraiment... Il mélange... C'est vraiment mêlé au reste des images constamment, quasi.
C'est ça.
Il y a une espèce de course folle, là, à la fin, à travers la ville, là, où t'as les deux qui se courent après, là. C'est tout en stop motion.
La finale aussi dans la cour à scrap, comme, là, l'espèce de truc. Ça me fait penser à la finale de Death Note... qui se passe dans une espèce de building qui faisait...
J'ai pas vu ça.
Non, Death Note, t'as pas vu ça.
C'est quoi?
C'est une série animée japonaise.
Ah, oh, OK. Non, je... Ah non, tu m'en as parlé, je pense, mais je ne l'ai pas vue, non.
Oui, je me répète. Là, je pense que les gens qui nous écoutent fidèlement, ils doivent dire, Marie-Louise, tu parles toujours des mêmes. T'en écoutes-en d'autres. Oui, j'ai écouté Attack on the Titan il n'y a pas longtemps. J'en ai parlé. Faut que je réécoute d'autres séries japonaises. Mais oui, Death Note, c'est parce que Death Note, c'est un de mes grands favoris. Là, je le réécoute pour pratiquer mon, essayer d'apprendre
pratiquer
le japonais.
Ton japonais,
ouais. Donc, c'est pour ça que je le connais bien en plus. Ouais.
Mais ouais, je voulais te dire aussi, en passant, en fait, que si tu veux voir ce film, c'est pas évident. Hein. Il n'est pas évident à trouver. Je pense qu'il existe des DVD, des versions DVD. En numérique, c'est compliqué de le trouver. Donc, c'est ça. C'est pas un film. C'est
non,
pas.
Ouais, ça, moi ça m'a surpris qu'on ait pas plus de qu'on ait pas trouvé d'autres films japonais de science-fiction là. Ben il y en a un autre, j'y ai pensé trop tard de, que j'ai vu au festival de Toronto de Science Sono qui aurait été un magnifique choix. Donc mais en même temps, je suis contente d'avoir fait ça parce que ça c'est une époque aussi là, on est dans c'est le fun de parler de films de science-fiction de d'une certaine époque, mais moi je me serais attendue. Ben quoi, on Godzilla, on le fait. Le Godzilla, c'est de la sci-fi d'une certaine façon.
On a fait le Godzilla américain, on n'a pas fait le Godzilla japonais.
On aurait pu faire le Godzilla. Donc, peut-être tout ce genre-là, les Gamera, les Godzilla.
Mm-hmm.
Mais ouais, ça aurait pu être quelque chose qu'on a fait. Mais je me serais attendue à ce qu'il y ait plus de la science-fiction classique, parce que les Japonais aiment tellement la robotique, par exemple. Tu sais, les films de robots, il n'y en a pas. En tout cas, dites-nous qu'on s'est trompé parce qu'on a fait une recherche. Là, on est allé vraiment à fond Internet, recherche, science-fiction.
Ouais, il n'y a pas beaucoup de choses sont sorties, donc peut-être que soit on s'y est mal pris, soit c'est parce que.
Ben, il faut que le film soit
live
bon.
Live action, oui, c'est ça aussi.
Il faut que le film soit bon.
Il faut que le film
bon.
Ait un certain intérêt, là.
C'est ça.
On ne veut pas voir de la vieille série Z.
On s'ostine parce que là, moi, je voulais qu'on mette un film du Zaïre, je crois, ou du Congo, mais c'était douteux quand on regardait sur YouTube.
Ça aurait été rigolo.
Ça aurait été rigolo.
Un film de science-fiction zaïrois. Moi, je veux voir ça.
Peut-être qu'on va le mettre, mais ouais, je pense qu'on va trouver ça plus désespérant que Tetsuo. Mais peut-être pas. Peut-être qu'on va rigoler bien ou qu'on va trouver ça vraiment bon. Il ne faut pas présumer.
Tu parlais du côté de la possibilité d'avoir un côté humoristique au film qui est pas là. Il y a juste un élément qui m'a fait rire à chaque fois. C'est il y a deux scènes dans le film où la musique switch à un espèce de thème super années 80 avec un saxo. Tu sais, le sax.
C'est pas une scène de baise, justement?
Est-ce que c'est pour une scène de baise au début? Je sais, peut-être c'est pour une scène de baise au début. Et puis, et à la fin, c'est quand t'as justement les deux, quand t'as le fétichiste de métal et l'autre qui se rencontrent, puis tout à coup, tu les vois sans leur attirail de métal là, sur eux. Là, tu les revois comme sous leur forme humaine, mais liés, tu sais, par une main, là. Puis t'as de nouveau ce thème au saxo qui arrive, puis qui est comme... complètement quétaine là au milieu, là. J'ai pas compris pourquoi, tu sais, la switch là.
Petite suggestion qu'il y a comme une petite histoire d'amour entre les deux qui se passe soudainement,
ça,
quoi.
Enfin, c'est le seul truc qui m'a fait rire. Enfin, j'étais là, mais c'est trop drôle, quoi, tu sais.
Mais.
Enfin, bref.
Je pense que c'était un film qui se veut drôle quand même.
Est-ce qu'il a voulu faire un thème au saxo à la Blade Runner, je sais pas, mais.
C'est peut-être ça. Il y a peut-être des trucs aussi qu'on n'a pas compris qui sont vraiment drôles. Faut pas oublier ça, là.
Ouais,
c'est peut-être plus drôle qu'on pense parce qu'il y a peut-être plein de détails
peut-être
qu'on n'a pas.
Pour le public japonais, il y a quelque chose de très drôle là.
Non, ça m'étonnerait pas. C'est ça, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un deuxième niveau un petit peu plus drôle là. Tu sais.
Ouais, ça peut être intéressant. Enfin, en tout cas.
Je pense qu'on a fait pas mal de tours.
Ouais, c'est ça.
Moi, je me suis posé la question si tu mets du métal dans ton c'était quoi déjà la scène? C'est si tu mets du métal dans ta jambe. Puis là, ça guérit tout croche. Est-ce qu'il va vraiment y avoir des asticots qui vont apparaître ou t'es pas supposé être mort? Parce que ça, c'est la mouche qui est allée pondre des œufs dans ton corps. Pour qu'elle fasse ça, il faut que tu sois mort. Je trouvais ça pas réaliste, là.
Non, mais ça peut être sur une plaie purulente, je veux dire.
Mais une plaie purulente, c'est pas nécessairement.
Enfin, c'est de la peau morte, oui, il peut y avoir de la peau morte, mais t'es pas. Toi-même, t'es pas forcément mort. Là,
oui, je sais, mais là, ce qu'une mouche fait, là, c'est que ça vient sur
toi.
Oui,
oui.
Puis ça pond des œufs dans ta chair morte. Mais ça ferait ça, je sais pas, peut-être. Peut-être que quand c'est en train de.
Je sais pas, mais c'est dégueu, en tout cas.
Oui, c'est très dégueu. Mais. cartésienne comme je vis, je me suis posé la question, mais ça, ça marche pas. Il me semble que non. Mais oui, il aurait pu avoir du pu ou des trucs, mais... Non, mais j'ai jamais entendu parler de ça, là. Moi, qui ai une blessure purulente, là.
Ouais.
Et des asticots qui sortent de... Non? Non.
Je sais que ça peut arriver.
On n'est pas obligé d'en parler, hein.
On va pas rentrer dans les détails, mais je veux dire... Non, mais c'est un truc qui peut arriver, oui. Je pense que oui.
Tu penses que oui? OK. Ouais. Ah bon, ben on va chercher. On va se poser la question. Parce que là, je vais faire attention à tous mes bobos à l'avenir, hein. Je vais mettre...
Mais bon, c'est pas comme si tu t'enfiles une pipe de métal comme ça à ton agent.
Quelle horreur.
Ah, c'est bien dégueu.
Ouais.
Donc voilà, Tetsuo, The Iron Man. On a un peu fait le tour, je pense.
Ouais, je pense pas qu'on peut dire grand-chose de plus sur ce film-là.
Bon. Alors, la prochaine fois, on a trouvé un film argentin qui s'appelle Man Facing Southeast. Je ne vais pas le dire en espagnol parce que ça part sympa.
C'est quoi en espagnol?
Je ne sais pas, je n'ai pas le titre espagnol. Là, je le tente même pas. Là.
Moi, je le tente.
Et donc voilà, on va voir ce que ça dit. Nos petites recherches nous ont amené en Argentine. On va voir
lui,
ce que ça donne.
Lui, il me parlait beaucoup. Ouais. Ça avait l'air très bien.
Ouais, je sais que ça a à voir avec les extraterrestres.
Puis c'est Subiela qui a fait ce film-là. C'est un réalisateur que j'aimais beaucoup. Alors, c'est... Hombre mirando al sudeste. Comment c'est des R en espagnol? Mirando.
Mirando.
Mirando. Je le dis à la japonaise, ça va pas bien. Hombre mirando al sudeste.
Voilà, ça c'est la prochaine fois. Et puis, en attendant, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de venir nous suivre sur les internets, notamment sur Twitter, Marie-Lou Gariepi. Mm-hmm. Et sur Facebook, marielouise.gariepi. Mm-hmm. Moi, je suis sur Twitter, Steady Nick, et sur Facebook, Nicolas Petzilas. Sur Facebook, précisez que si vous voulez qu'on soit friends, précisez que vous êtes des auditeurs du podcast parce que je sélectionne mes friends. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur notre site 24quarks.com ou sur iTunes. Et d'ailleurs, si vous pouvez nous y laisser quelques belles petites étoiles, au passage, ça nous ferait bien, bien plaisir. Ça serait très, très apprécié. Vous pouvez nous écouter sur Balado Québec, sur Pod Québec, sur RZO Web. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @24quarks, donc 24QUARKS. Venez jaser avec nous sur notre page Facebook ou encore contactez-nous par courriel à 24quarks@gmail.com. Voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir trouver une bande-annonce du film. Tu en as trouvé une?
Je pense que j'en vois.
Oui. Ok, donc ce sera... On va se quitter avec une bande-annonce du film, alors, du prochain film.
En espagnol.
Voilà, c'est ça. Cool. Merci beaucoup de votre fidélité. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.
Bye bye.
Somos réplicas humanas perfectas. Salvo por una cosa. No podemos sentir. Hay torturadores que aman a Beethoven, quieren a sus hijos, van a misa.
Se muere.
Yo también.
Program complete.
Get away from her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.